Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour.
Alors, vous voyez qu'on est vraiment dans l'esprit fête, Saint-Valentin aujourd'hui. Puis vous allez y contribuer d'une certaine manière, puisque vous allez nous parler du chocolat. Pour certaines personnes, c'est encore bien important, le chocolat à la Saint-Valentin. Et entre autres, de Madame Laura Secor.
Ben oui, vous dites ça comme si c'était pas important pour vous. Moi, personnellement, ce l'est. En même temps, je suis obligé de dire que, bon, c'est une journée, la Saint-Valentin, qui est associée au chocolat dans l'esprit de beaucoup de gens. Moi, il n'y a pas vraiment de journée qui ne le sont pas. Donc, je me disqualifie de cette question-là. Mais on peut se poser la question, en ce 14 février, comment, nous qui vivons au Québec et au Canada, en sommes-nous venus à associer une Américaine née au 18e siècle, à qui on ne connaît aucun lien avec la confiserie, à la Saint-Valentin et au chocolat qu'on s'y offre? Laura Secor, qu'on devrait probablement plutôt appeler Laura Secor, est née Laura Ingersoll dans le Massachusetts en 1775. Elle est la fille d'un patriote américain, donc un homme qui prônait l'indépendance des 13 colonies d'Amérique face à la Grande-Bretagne, 13 colonies qui sont devenues les États-Unis d'Amérique. Ingersoll, père, va faire ce que beaucoup de ses ex-compatriotes qui étaient demeurés loyaux à la Grande-Bretagne pendant la guerre d'indépendance américaine ont fait, c'est-à-dire immigrer dans le Haut-Canada, l'actuel Ontario, avec sa famille. Il est d'ailleurs considéré comme le fondateur de la municipalité d'Ingersoll, qui est une ville de 13 000 habitants, pas très loin de London, dans le sud de l'Ontario. En 1797, sa fille Laura épouse James Secor, dont elle prend le nom de famille. Le père de Secor était également originaire des 13 colonies américaines, mais lui était demeuré loyal à la Grande-Bretagne avant de venir s'installer au Canada, et qui prend mari, prend orientation politique, parce que Laura Secor va atteindre la célébrité pour le service qu'elle a rendu à la Grande-Bretagne pendant la guerre de 1812. La guerre de 1812, vous vous en rappelez peut-être, Stephen Harper avait essayé de faire une grosse affaire avec ça, de fouetter la fierté nationale au moment du bicentenaire, donc en 2012. Je pense pas que ça avait tellement fonctionné. C'est un conflit, surtout commercial, des disputes frontalières entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, la puissance coloniale et le petit nouveau qui souhaitait s'imposer comme la première puissance en Amérique du Nord. On se déclare la guerre. Les combats auront lieu au Canada et aux États-Unis. Les Britanniques vont notamment prendre Washington et incendier la Maison-Blanche. Les Américains, pour leur part, vont lancer un certain nombre d'offensives, notamment une en 1813, qui avait pour objectif Montréal. Et c'est lors de cette campagne-là que les Américains ont été vaincus à la bataille de la rivière Châteauguay, dans le bout d'Ormstown, par les voltigeurs canadiens et les miliciens dirigés par le lieutenant-colonel Charles-Michel de Salaberry, accompagné de troupes des Premières Nations, dont un bon nombre de Mohawks, de Ganawagés et de Ganestagés. Mais l'année précédente, les Américains avaient tenté de prendre le contrôle de la vallée de la rivière Niagara, qui forme une partie de la frontière entre l'Ontario et l'État de New York. Les Secor habitaient la vallée de la Niagara, et James Secor, qui faisait partie d'une compagnie de miliciens britanno-canadiens, a été blessé à la bataille de Queenston Heights, qui était la première grande bataille de cette guerre. En juin 1813, les Secor avaient dû accepter que des officiers américains en campagne s'installent dans leur maison, et Laura aurait entendu des conversations à propos d'une offensive surprise contre un poste britannique situé à une vingtaine de kilomètres de là. Les Secor ont décidé qu'il fallait avertir l'officier en charge du poste en question, un nommé Fitzgibbon. M. Secor était encore en convalescence. C'est donc Laura qui a dû y aller. Là, on sait qu'elle a effectivement été donnée l'alerte, mais il existe plusieurs versions de ce qui est arrivé. Elle aurait marché toute la journée, une distance d'une trentaine de kilomètres. Elle voulait pas faire le chemin en ligne droite de crainte de tomber sur des sentinelles. Il y a des versions qui disent qu'elle aurait marché tout ce chemin-là, pieds nus. D'autres qu'elle s'était amenée une vache pour se donner une raison de circuler. Si elle était surprise par des Américains, elle aurait pu juste se mettre à traire sa vache, tout ça, puis elle l'avait laissé partir dans le bois quand elle n'en avait plus besoin. On parle aussi que possiblement des éclaireurs autochtones auraient averti le poste britannique avant l'arrivée de Laura Secor. Tout ça pour dire qu'on a pu tendre une embuscade et mettre le détachement américain en déroute grâce ou pas à l'intervention de notre Laura Secor, parce que quand on produit un rapport sur les événements, on ne fait pas mention de l'informatrice qui nous aurait mis au parfum de l'attaque américaine. la guerre se termine, la vie reprend son cours, et on n'a pas gardé vivace le souvenir de l'épopée de Laura Secord à ce moment-là. Elle va demander plusieurs fois une pension gouvernementale ou une assistance financière quelconque en reconnaissance de son service pendant la guerre, sans succès. Le lieutenant Fitzgibbon, donc, qui avait été averti par Secord, va plaider en sa faveur, disant qu'effectivement, son travail d'espionnage et sa longue randonnée avaient été décisives, sans que ça fasse de différence. Elle obtiendra finalement une compensation à la toute fin de sa vie, en 1860, lors de la visite du prince de Galles, fils de la reine Victoria, futur roi Édouard VII, qui était venu en Amérique notamment pour inaugurer le pont Victoria. Secord va faire partie d'un groupe de vétérans de la guerre de 1812 qui font une adresse au prince pendant sa visite. Il va être ému par l'histoire de l'octogénaire. On lui raconte ce qui était arrivé à ce moment-là. Il va lui faire parvenir un montant d'argent. Secord décède en 1868 à l'âge de 93 ans. Et c'est surtout après sa mort qu'elle va atteindre la célébrité. On voulait raconter une histoire héroïque de cette guerre de 1812, mais c'est une guerre déclarée pour des raisons imprécises, qu'il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas vraiment de personnage qui s'est particulièrement illustré. C'était une guerre britannique, là on essaie de raconter ça d'un point de vue canadien, c'était difficile de réconcilier tout ça. Au Canada français, on a beaucoup vanté l'exploit de Salaberry, le vainqueur de la Châteauguay, qui a sa statue sur la devanture de l'hôtel du Parlement à Québec. On n'allait pas, au Canada anglais, choisir un Canadien français comme héros de notre guerre contre les États-Unis. On va donc s'intéresser à l'histoire de Laura Secord. On écrit des récits de sa vie, des romans, des pièces de théâtre. Elle va être statuifiée deux fois plutôt qu'une au début du 20e siècle. Son portrait est accroché dans l'édifice du Parlement de l'Ontario à Toronto. Et en 1913, Frank Patrick O'Connor a ouvert une boutique de bonbons et chocolat rue Yonge à Toronto et il a décidé de nommer son commerce en l'honneur de Laura Secord. On présume sans consulter ses ayants droit avant de le faire. Madame Secord a eu 7 enfants, on présume des petits-enfants et ainsi de suite. C'était quelque chose qu'on voyait quand même relativement fréquemment à l'époque, utiliser le nom d'un personnage célèbre, un personnage historique, comme nom pour un commerce ou une entreprise. Il y a eu la brasserie Frontenac à Québec, il y avait la Champlain Oil Products Limited, qui avait été fondée à Montréal par un Américain. On le fait également avec Laura Secord, et depuis maintenant 112 ans, à travers de multiples changements de propriétaires, la compagnie a notamment appartenu à la brasserie Labatte, on garde vivant le souvenir de Madame Secord, même si l'image qu'on a d'elle, n'est-ce pas la dame qui sert de logo à la compagnie, d'autant que je sache, ce n'est pas un vrai portrait de Laura Secord. On a une photographie d'elle qui a été prise à la toute fin de sa vie. C'est une dame âgée avec un bonnet, bible à la main. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit sur les chocolats. Je n'ai pas trouvé l'origine du logo. Je pense que c'est tout simplement une représentation artistique de ce à quoi aurait potentiellement pu ressembler la jeune Laura Secord. La marque aujourd'hui est propriété de la famille Leclerc de Québec et est installée au Québec depuis ses tout débuts. En fait, on a ouvert une usine sur l'avenue Vigée à Montréal en 1917, une usine que le journal La Patrie nous décrit de la manière suivante quelques années plus tard. Une symphonie en noir et blanc, de vastes salles où tout un peuple de jeunes filles en bonnet et tablier blanc confectionne en un tour de main de délicieux chocolats. Des cuisines propres et bien aérées où cuisent les 1000 ingrédients requis. Tel est le studio de Laura Secord. C'est une époque où on insistait très fortement sur les bonnes pratiques de propreté dans l'industrie alimentaire. D'ailleurs, dans une publicité qui date de quelques années plus tard, on disait « Partout l'univers, n'est-ce pas? » Comme je vous dis souvent, rien de moins, les produits Laura Secord sont reconnus pour leur pureté et leur qualité hygiénique. Et on disait aussi, ça c'est intéressant, on parlait de prix. Pour votre commodité, ils sont en boîte de 1, 2, 3, 4 ou 5 livres, tous à 60 sous la livre. Donc, une livre de chocolat, c'est une bonne quantité, mais 60 sous en 1923, c'était pas du chocolat bon marché. Et je peux pas vous dire, Francine, si déjà à l'époque, on pouvait aller à la pharmacie le lendemain de la Saint-Valentin ou de Pâques, acheter du chocolat Laura Secord à moitié prix comme on le fait aujourd'hui, 30 sous la livre déjà, je pense que ça aurait été plus raisonnable que 60 comme on le vendait au prix régulier.
Ouais, faut dire qu'aujourd'hui, le chocolat Laura Secord, bon, ça reste un bon chocolat, mais il y a tellement d'autres compagnies de chocolat que c'est une parmi d'autres.
Bien, c'était déjà une parmi d'autres à l'époque, remarquez bien. Il y avait déjà une forte concurrence, puis des noms parfois qu'on voit encore. Launay, qui faisait jusqu'à tout récemment, la marque qui faisait tout récemment les Cherry Blossom, ça existait déjà à ce moment-là. Ganong aussi. Donc, c'était pas un marché unique déjà au début du 20e siècle.
C'est intéressant quand même de nous rappeler qu'elle n'a pas été que du chocolat. Je dis ça comme ça, mais...
qu'elle n'a pas du tout parce été que du chocolat.
C'est ça, parce que pour nous, c'est vraiment, mais vraiment le chocolat. Laura Secord, d'ailleurs, on ne dit jamais Laura Secord. On se l'est approprié.
Oui.
Ça nous appartient. Mais merci beaucoup, puis passez une belle Saint-Valentin, puis ben mangez un peu de chocolat, mais pas trop.
Je vais tenter de suivre votre conseil.
Bon, alors on s'en reparle la semaine prochaine.
Parfait, à la semaine prochaine.
Au revoir.